Tu sais, je m'intéresse beaucoup à l'environnement.
Moi, j'aime qu'on me parle de la santé ou de l'éducation.
Et les questions de l'entrepreneuriat me préoccupent beaucoup.
Et surtout, tout ce qui touche à la protection de l'enfant m'intéresse beaucoup.
Justement, pour parler de tout ça, l'UNICEF et Radio Okapi ont préparé ces programmes. Le magazine Bana Okapi, pour vous, avec de la musique aussi.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre magazine Bana Okapi. Aujourd'hui dans votre magazine Bana Okapi, nous abordons une question cruciale pour l'avenir de la jeunesse congolaise. Le droit et les devoirs des enfants. Si les droits des enfants sont les fondations de leur avenir, leur connaissance reste malheureusement inégale en République démocratique du Congo. Comment les enfants découvrent-ils leurs droits et leurs devoirs? Car connaître ses droits, c'est pouvoir les défendre. Et comprendre ses devoirs, c'est devenir un citoyen responsable. Dès l'école à la maison, en passant par les médias et les réseaux sociaux, nous explorons ensemble les différents canaux d'information qui permettent aux enfants de s'épanouir pleinement. Un voyage au cœur de l'enfance, là où se construisent les citoyens de demain. Je suis Sarah Soumbela, à la présentation de ce magazine, une mise en onde de Polydor Basonga. Christian Mapendanouya Chris coordonne ce programme sous la supervision de Jean-Marc Matouaki Mofelele Dijanon. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, place à une note de bonne humeur. Mes amis de Bana Okapi, nous parlons des droits et les devoirs des enfants, bien sûr. Comme vous le savez, les droits et les devoirs des enfants sont les deux faces d'une même pièce, indispensable au bon fonctionnement de notre société. Des enfants interrogés à ces sujets ont exprimé avec clarté l'importance de connaître leurs droits et leurs devoirs envers leurs parents et les autres membres de la communauté. Ils ont été interviewés par Sulamito Kipuni.
Bonjour. Quels sont tes droits les plus importants en tant qu'enfant à la maison?
Je m'appelle Franck Diamongo. Le droit le plus important pour l'enfant, c'est l'éducation, l'amour des parents et la nutrition.
Bonjour, je m'appelle Dieu Miracle. Mes droits les plus importants sont le droit d'être écouté, le droit à l'éducation, le droit de me sentir en sécurité. J'ai aussi le droit de jouer et d'exprimer mes opinions.
Les enfants doivent être aimés, nourris et doivent avoir l'éducation.
Bonjour Madame Chirini, je suis Samuela. L'éducation, c'est mon droit le plus important.
Quels sont tes devoirs à la maison et à l'école?
Pour moi, à la maison, mes devoirs incluent d'aider avec les tâches ménagères, comme ranger ma chambre, faire la vaisselle. Et à l'école, je dois écouter mes enseignants, respecter mes camarades et faire mes devoirs.
Mes devoirs à moi à la maison, c'est aider les parents dans des tâches ménagères et respecter les parents et mes aînés. À l'école, mes devoirs, c'est travailler pour obtenir de bons points pour honorer mes parents.
Au droit des enfants, on nous a appris que à l'école, il faut savoir, il faut obéir les autorités de l'école. Il ne faut pas s'insulter à l'école. Il ne faut pas se battre. On a dit aussi que si vous voyez une autorité, il faut toujours avoir l'habitude de les saluer. À la maison, je dois obéir mes parents, respecter tout ce qu'ils disent.
Je dois aimer les parents, les respecter.
Mes devoirs à la maison, c'est d'aider les parents, de respecter les parents. Et à l'école, c'est d'étudier pour devenir quelqu'un d'important dans la société.
As-tu déjà rencontré des situations où tes droits n'étaient pas respectés? Si oui, c'était quand? Ça s'est passé comment? Comment as-tu réagi?
Oui, une fois, une camarade de classe m'avait intimidée. Je me suis sentie triste. J'en ai parlé avec mon enseignant. Il a pris la situation au sérieux et a aidé à résoudre le problème.
Malheureusement, je n'ai jamais rencontré des situations pareilles parce que mes droits ont toujours été respectés.
Que penses-tu de droits et devoirs des enfants?
Je pense qu'il est important que les enfants connaissent leurs droits pour pouvoir les défendre. Les devoirs sont aussi essentiels pour apprendre à vivre en société, à respecter les autres.
Je pense que chaque enfant d'abord a droit à l'identité et chaque enfant doit obéir à ses parents, respecter ses parents et tout comme respecter ses droits, chaque enfant a droit à l'éducation.
Si tu pouvais changer quelque chose pour améliorer la vie des enfants, qu'est-ce que cela serait?
Je voudrais qu'il y ait plus d'espace, plus d'activités dans des écoles afin que tous les enfants aient la chance de s'amuser et de faire et de se faire des amis.
Installer des hôpitaux et des orphelinats.
Pour moi, ça serait que l'éducation qu'on a et qu'on reçoit à l'école tout comme à la maison s'améliore par rapport à l'évolution de notre vie.
Merci aux amis de Bana Okapi qui intervenaient via le micro de Sulamit Kipuni. Les droits et les devoirs sont au cœur de ce magazine Bana Okapi. Au Congo, comme partout ailleurs, les enfants sont détenteurs de droits fondamentaux. Mais ces droits s'accompagnent des devoirs, qu'ils soient à la maison, à l'école ou dans la rue. Une réalité soulignée par une mère de famille rencontrée dans une rue animée de Kinshasa. L'éducation de base commence à la maison, affirme-t-elle, insistant sur le rôle primordial des parents dans l'apprentissage des valeurs et du respect. Selon elle, l'école intervient ensuite pour apporter l'instruction et la formation scientifique nécessaires au développement de l'enfant. Elle s'entretient avec Sulamit Kipuni.
Bonjour madame, bonjour. Comment abordez-vous la question de droits et devoirs avec vos enfants?
J'ai toujours partagé avec mes enfants qu'ils ont droit à être bien éduqués, ils ont droit à vivre dans de bonnes conditions. Ils ont aussi les devoirs aussi envers les parents, envers la société. Donc je leur ai toujours parlé de ça. Qu'ils ont droit, ils ont des devoirs à faire par rapport à la société, par rapport aux mœurs, par rapport à la famille, par rapport au monde entier, quoi.
Rencontrez-vous des difficultés particulières dans ces domaines? Quand vous leur parlez là, est-ce qu'il y a des difficultés? Ils comprennent difficilement ou bien? Et même s'ils comprenaient, est-ce qu'ils les appliquent réellement dans la vie pratique?
Oui, ils essayent. Ce sont des enfants. Quand tu leur parles, il faut aller mollo, comme on dit. Donc on va avec eux doucement. Il y a des fois qu'on trouve aussi des barrages, il te dit, moi je vais peut-être porter ceci pendant les fêtes de Noël, puisque c'est mon droit quand même de bien m'habiller et tout. Il faut lui faire voir que non, pour l'instant, vous êtes nombreux, vous devez avoir ça. Il te demande peut-être 100 dollars, il dit, je vais acheter le basket de 100 dollars. Tu dis, non, mais tu n'es pas seul, tu as les autres. Il faut aimer, en fait, il faut aimer aussi tes frères et tes sœurs. Donc, on doit partager le peu qu'on a, chacun doit avoir, il faut choisir quelque chose qui paie, que tout le monde peut avoir la facilité d'avoir. Donc, tu ne vas pas demander les aides des parents puisque c'est ton droit. Donc, il faut savoir que tu n'es pas seul. Donc, c'est ça un peu.
Comment encouragez-vous vos enfants à être responsables et respectueux envers les autres?
Quand ils ne sont pas sur la ligne de l'éducation, ils ne seront pas respectés. Le devoir d'aimer, je crois que j'ai eu deux enfants que j'ai punis. Ils ont laissé le frère dans la chambre, seul, et ils étaient dehors. Ils ont passé la nuit à l'annexe. Quand je suis rentré avec les transports qui est difficile, quand je suis rentré, j'ai toqué à la porte, au portail, personne ne répondait. Quand je suis venu, j'ai trouvé que tout le monde était à l'annexe. Et le petit bambin de 8 ans qui était seul dans la grande maison, seul. On a des chiens, j'ai essayé de parler, j'ai dit, mais quand vous passez la nuit là-bas, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il n'y a pas de télé là-bas, il n'y a rien là-bas. La télé ici, mais vous êtes là, vous passez la nuit là-bas. Non, on était en train de parler. Après, on a été pris par le sommeil et tout. Je leur ai dit, mais imaginez-vous que l'enfant faisait une crise ou quelque chose comme ça, où il criait ou bien il cherchait quelqu'un. En plus, on a des chiens. Admettons que les chiens étaient entrés là-bas, ils ont dévoré l'enfant. Qu'est-ce que vous allez faire? On vous amène les intestins. Alors, désormais, vous avez une semaine, vous allez passer la nuit là-bas. Vous passez votre nuit là-bas pendant une semaine et après vous allez rentrer. Donc ils se sont excusés disant pardon maman, on était pris par le sommeil et tout. Donc c'est un peu ça.
Que pensez-vous du rôle de l'école dans l'éducation aux devoirs et aux droits des enfants?
L'école, je pense que c'est mieux pour l'instruction. Ils sont là pour l'instruction. Je pense que l'éducation provient de la maison. Ouais. Je pense que l'éducation doit provenir de la maison. L'école, c'est pour l'instruction, puisque les enfants, il y a beaucoup d'enfants qui sont abîmés aussi au niveau de l'école. Moi, je me rappelle encore mon fils qui était à Elikia. Lui, il disait que maman, il y a l'enfant de X. Il m'a cité un nom connu à Kinshasa. Il dit, mais je dis, est-ce que tu connais son père? Il est qui? Oh, il mange les shawarma. Il faut me donner l'argent pour les shawarma et tout et tout. Je dis, tu penses que les shawarma que tu vas manger tous les jours, là, ça va t'apporter quoi dans le corps? Quand tu manges ça, est-ce que tu sauras encore manger à la maison, la cuisine qu'on prépare à la maison? Je pense pas. Donc, il y a des choses à partir de l'école, les enfants sont influents. Il y a des influents à l'école qui aiment bien s'habiller comme ça, à part l'uniforme. Ils ont des baskets comme ça, ils ont des sacs comme ça, ils ont des montres comme ça. Et quand ils te disent ça, en fait, l'école, je pense, c'est pour l'instruction. Mais pour l'éducation, il faut éduquer l'enfant à partir de la maison. Puisque là-bas, à l'école, ils ont aussi des amis influents qui influencent les autres dans le mal.
Oui, oui, l'éducation diffuse.
Oui, oui, c'est ça.
Merci d'avoir répondu à nos questions, madame.
Oui, merci à vous aussi pour vos questionnaires.
Restons toujours à Kinshasa. Le père des familles estime que l'éducation des enfants repose sur trois piliers, la maison, l'église et l'école. Il déplore l'influence négative de médias sociaux pointant du doigt les contenus obscènes qui y circulent. Ils estiment que ces contenus pervertissent leurs valeurs morales et détournent les enfants de leurs devoirs. Écoutez-les au micro de Sulamit Kipouni.
Bonjour monsieur.
Bonjour madame la journaliste.
Comment abordez-vous la question des droits et des devoirs des enfants?
Madame, vous savez, maintenant nous vivons un monde vraiment avec des réseaux sociaux. Tout le monde connaît presque tout ce qui se passe et puis ce qu'on doit faire. Et les problèmes des devoirs des enfants, nous, les Africains, parfois on devient des snobs. Snobs, ça veut dire nous copions ce qui se passe en Europe ou à l'Occident sans même tenir compte de nos cultures. Mais on a des devoirs et des droits des enfants, moi en tant que parent. Je sais que je suis obligé de donner une vie un peu meilleure à mes enfants. Compte tenu de mes moyens, c'est-à-dire si j'ai un peu de moyens, ils doivent étudier, ils doivent aussi manger, ils doivent un peu bien dormir, et puis peut-être leurs besoins aussi, satisfaire leurs besoins, compte tenu de mes moyens. Et de l'autre côté, pour les enfants, ils doivent savoir que nous sommes les Africains, on a aussi une manière de faire des choses vis-à-vis de leurs parents, c'est pas seulement à se copier les blancs qui disent que non, un enfant... Il a des droits, on ne peut pas grandir sur un enfant, on ne peut pas faire ceci chez nous. Nous devons aussi adapter ce que les droits-là disent par rapport à nos cultures pour que les enfants ne soient pas dérapés. Vous voyez, partir dans des foyers ou des familles européennes, il y a des enfants qui dévient la vie parce qu'ils ne respectent pas vraiment. Ils sont dans leur culture, mais nous devons aussi parfois aussi gérer nos enfants des manières de notre culture. Voilà.
Mais est-ce que vous avez le temps d'échanger avec vos enfants par rapport à leurs devoirs et leurs droits?
Nous, les parents qui sommes un peu évolués, on essaie un peu de parler et discuter avec les enfants. Parce que la vie actuelle, maintenant, dans une famille un peu modeste, on apprend aux enfants à parler la langue officielle du pays pour ne pas avoir de difficultés. Vous savez, lorsque nous, on grandissait, on parlait toujours la langue maternelle. Et parfois, il y a d'autres personnes qui ont eu des difficultés pour parler le français lorsqu'ils étudiaient et arrivaient à l'université, même au travail. Mais pour le moment, on a eu aussi la manière là de parler toujours avec aux enfants en français à 80% et la langue maternelle peut-être à 20%. Souvent, on discute sur le problème de la vie, donc les droits, les devoirs, on discute et aussi parfois, et ce que nous disons souvent en lingala qui est banaoué en français, bazama kamwebele, comme ça, on dit ça et puis on discute avec eux et puis on trouve toujours des solutions par rapport à ça.
Rencontrez-vous des difficultés particulières dans ces domaines?
Les difficultés, oui, parce qu'il y a aussi on appelle ça l'éducation diffuse, donc les enfants là, ils parlent, parfois ils ont des mauvaises compagnies, on leur inculque d'autres éducations qui sont différentes des nôtres, et on fait toujours un effort pour essayer un peu d'élaguer les mauvaises éducations qu'ils prennent là où ils sont, à l'école ou avec des amis, pour qu'ils puissent vraiment être focus sur la bonne éducation que nous, les parents, parfois, on a eu lorsqu'on grandissait.
Comment encouragez-vous vos enfants à être responsables et respectueux envers les autres et également envers vous, les parents?
Ça, c'est un problème. D'abord, on appelle ça, il faut que quelqu'un puisse avoir une référence. Un parent qui a été mal éduqué, il va aussi mal éduquer ses enfants. Et un parent qui a été bien éduqué, il doit aussi amener ses enfants dans cette lignée-là de bonne éducation. C'est-à-dire, pour éduquer un enfant, nous avons la famille, nous avons l'école, et nous avons aussi l'église pour nous les chrétiens. C'est-à-dire, l'enfant, aller à la maison, on lui donne des principes, comment il doit vivre, comment il doit respecter les autres et d'autres personnes âgées ou des amis, et comment il doit vivre dans la société. À l'école, dans des bonnes écoles, on ne donne pas aux enfants que les cours, on leur donne aussi l'éducation, la manière de se comporter dans la société. Et aussi à l'église, parfois aussi il y a genre des prédications pour les enfants qui les amènent à bien grandir. C'est-à-dire, il y a plusieurs manières d'éduquer les enfants. Les trois que je viens d'évoquer là, ce sont vraiment des principales manières pour l'éducation des enfants.
Pensez-vous que les médias et les différentes ONG font la promotion du droit des enfants?
Bon, je ne sais pas qu'est-ce que vous appelez médias. Bon, parce que nous, à part les radios, les télés, il y a aussi ce qu'on appelle les réseaux sociaux, ce sont aussi les médias. Hein, parce que du côté des réseaux sociaux, vraiment, il y a beaucoup de parties négatives sur l'éducation des enfants. Tu vois, parfois, j'entre à Facebook, je vois des choses obscènes. Vraiment, je ne tolère pas que mes enfants puissent entrer sur Facebook. Mais par contre, dans les chaînes de radio et de télévision, il y a des émissions qui éduquent les enfants, qui forment les enfants même à ce qui concerne les études. Et c'est vraiment bien pour les radios et la télé. Mais, du côté réseaux sociaux, dans d'autres réseaux sociaux, vraiment, ce n'est pas bien pour l'éducation des enfants. Il y a des choses qui ne sont pas tolérables.
Voilà. Bonjour, monsieur.
Bonjour madame.
Avez-vous le temps de discuter avec vos enfants sur leurs droits et sur leurs devoirs?
Oui, oui. D'abord, moi, la culture, ça commence d'abord par tout ce qui est religion, la prière surtout. Je commence par là. Je leur enseigne les droits, c'est des choses scientifiques. Mais moi, je commence d'abord par les choses spirituelles. Je leur montre qu'est-ce que dit la Bible par rapport aux devoirs des enfants vers les parents et des parents vers les enfants. Après, je viens, comme on est dans une société, donc je viens. Après, j'en parle tout ce qui est droits et enfants dans notre pays, quelles sont les lois, quels sont leurs devoirs, quels sont mes devoirs et tout ça. Donc, on essaye de partager et ils sont souples à ça parce que j'ai déjà la facilité par la prière. Ils sont vraiment assidus à la prière et ça me facilite des choses quand on communique, quand je leur explique qu'il faut pas faire ça, ça c'est pas un droit, ça c'est vous avez des droits, mais vous avez aussi des devoirs, donc c'est réciproque. Donc moi en tant que parent envers mes enfants et les enfants envers les parents. Mais je parle aussi de tout leur droit à la santé, à l'éducation, beaucoup de choses, à l'instruction. Donc il y a beaucoup de choses, beaucoup de sujets sur lesquels on discute et ils sont souples. Ils sont vraiment souples à partager avec moi. Et j'essaye d'adapter ce que je leur dis. Bien souvent que c'est difficile. Parfois, on est fâché. Et puis, on tape un peu. Hein, dans notre culture, nous, on a grandi avec les fouets. Mais maintenant, là, si tu tapes un enfant, il va te dire, non, 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 je suis dans mes droits. Il ne faut pas me frapper. Sinon, je vais aller pisser. UNICEF et tout ça. Bon, on essaie de s'adapter. C'est pas aussi facile, mais c'est avoir une méthodologie. Vraiment... Moi, j'essaie être ami avec mes enfants, j'essaie être dur avec eux, j'essaie être moins dur et j'essaie être faible aussi des fois. Parce que les enfants ont des stratégies, hein. Ils utilisent une de leurs sœurs ou bien un petit frère. Va nous demander ça à papa, comme ça, il va donner. Quand toi tu y vas, c'est plus facile, tout ça. Mais donc, j'ai fait les tout. Quand il faut taper sur la table, je l'ai fait. Quand il faut gronder, je gronde. Quand il faut servir... mes devoirs, payer les minervales, des sorties, aller acheter la bande là pour la santé, les habits et tout ça. Je l'ai fait naturellement. C'est mon rôle de parent. Donc moi, j'essaye de faire mes devoirs et je leur dis aussi. J'ai un contrat avec les enfants sur tout ce qui concerne l'éducation, les études. Je leur ai dit, moi, j'ai fait ma part, je paye les minervales. Donc moi, je pars travailler. Vous, votre travail, c'est étudier. Quand vous ne faites pas de bons points chez moi, vous n'avez pas le droit à un cadre. J'ai dit, on fait, comme maintenant là, les enfants aiment des trucs numériques et tout ça. Ils disent, ah, j'ai besoin d'un téléphone. Hein. Ah, tu veux un iPhone? Ok, c'est pas un problème. Tu me fais 75%, moi je t'achète ton iPhone que tu veux là. Si tu n'y arrives pas, tu n'auras pas l'iPhone. Donc c'est comme ça. Et il faut vraiment veiller sur ça parce que nous sommes tellement envahis par la télé, les réseaux sociaux, beaucoup de trucs numériques. Chez moi, en tout cas la semaine, on n'utilise pas tout ce qui est réseaux sociaux. et je leur donne 1 heure la semaine par jour pour regarder la télé. Vous rentrez de l'école, vous reposez, vous mangez, vous étudiez, vous avez 1 heure et puis au lit. Donc c'est pour éviter beaucoup de choses qui abrutissent nos enfants. Parce que la télé, c'est beaucoup de choses. Hein. Faut vraiment filtrer. Donc c'est un peu ça.
Que pensez-vous du rôle de l'école dans l'éducation de droits et de devoirs des enfants?
Bon, l'école a un rôle de formateur. Donc, il faut montrer aux enfants quels sont leurs droits, quels sont leurs devoirs. Mais généralement, je dirais un peu vague parce que c'est pas comme à notre époque où on avait l'essence patriotique. Vraiment, on avait des cours qui nous enseignaient nos droits, les droits internationaux, les droits nationaux. Maintenant, là, c'est vraiment, je dirais, pour remplir les nombres de cours dans les écoles. Quand tu discutes avec les enfants, tu leur demandes quels sont tes droits. Il va te parler en général, mais en détail, il sait pas. L'école fait son rôle, mais c'est notre responsabilité à nous, les parents, de compléter ce que l'école est en train de faire. Sinon, ça sera général, parce que les droits qui est enseigné à l'école, c'est des droits universels. Mais moi, je m'appuie plus sur notre culture et notre pays pour leur montrer que dans notre pays, il faut faire ça, il faut pas faire ça. Pour les parents, c'est ça. Pour les enfants, c'est ça. Donc, j'essaye de concilier pour trouver les justes milieux. Mais bon, l'école joue son rôle et on avance petit à petit.
Merci d'avoir répondu à tout.
Tu sais, je m'intéresse beaucoup à l'environnement.
Moi, j'aime qu'on me parle de la santé ou de l'éducation.
Et les questions de l'entrepreneuriat me préoccupent beaucoup.
Et surtout, tout ce qui touche à la protection de l'enfant m'intéresse beaucoup.
Justement, pour parler de tout ça, l'UNICEF et Radio Okapi ont préparé ces programmes. Le magazine Bana Okapi, pour vous, avec de la musique aussi.
Rebonjour à toutes et à tous et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un sujet essentiel pour l'avenir de notre jeunesse, la connaissance et la mise en pratique des droits et devoirs des enfants et des jeunes Congolais. Dans cette deuxième partie de notre émission, nous allons explorer en profondeur les différents canaux disponibles en RDC pour informer et éduquer les jeunes sur leurs droits et leurs devoirs. Nous aurons l'honneur d'accueillir des experts dans une structure spécialisée dans la sensibilisation et l'éducation aux droits de l'enfant, un juriste et un enseignant. Ensemble, ils vont explorer les différentes voies pour informer et former nos jeunes. Restez bien à l'écoute pour enrichir vos connaissances sur les droits et devoirs de nos enfants. Je suis Sarah Soumbela et je suis ravie de vous accompagner tout au long de cette émission. Un programme coordonné par Christian Mapendano, affectueusement appelé Yakris, avec la mise en onde de Polydor Basunga et la supervision de Jean-Marc Matoki Mofelele Dijanon. Et pour commencer, laissons la musique nous emporter. Trouvez-la-moi de Dadju et Fali Poupa. Les amis de Bana Okapi, les violations de droits et devoirs des élèves sont une réalité dans les établissements scolaires. Pour y faire face, les écoles se dotent des règlements intérieurs. Ces documents, selon Monsieur Hyacinthe Kinavoudi, proviseur à l'école d'application de l'Université pédagogique nationale, contiennent des articles visant à protéger les élèves et à gérer les situations de non-respect. Les enseignants ont un rôle crucial dans la sensibilisation des élèves et des parents, souligne notre invité. Ils doivent veiller à ce que les règles soient connues et respectées de tous. Suivez-le dans cet entretien avec Grâce en Vézolo.
Monsieur Hyacinthe Kinavuidi, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous êtes proviseur et directeur des disciplines à l'école d'application de l'Université pédagogique nationale à Kinshasa, c'est-à-dire que vous gérez les personnels administratifs, enseignants, ouvriers et élèves à l'école. Comment l'école aborde-t-elle la question du harcèlement scolaire qui est une violation des droits de l'enfant?
Oui, nous savons qu'il est difficile de de connaître toutes les sortes de violations que subissent les élèves et même le personnel, mais ceux qui sont mis à notre connaissance, nous essayons de tout faire pour que nous puissions trouver des solutions, des fois à l'amiable, si le règlement scolaire n'a pas prévu quelque chose. C'est comme ça que nous avons souvent demandé à nos enfants de venir dénoncer, et même aux adultes qui sont avec nous, quand il y a un problème avec les enfants, vous avez le droit de se comporter comme d'abord adulte et nous amener le dossier afin que nous soyons en mesure d'analyser correctement et chercher à trouver des solutions. Mais le plus souvent, c'est à l'amiable que nous le faisons, soit avec le parent, qu'on appelle le parent, ou soit nous procédons par des conseils à donner aux enfants ou encore aux enseignants et même ouvriers qui sont avec nous au sein de l'institution.
Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret de la manière dont vous avez abordé la question du harcèlement dans votre école précisément?
Alors, si nous prenons l'harcèlement comme la violence faite à l'enfant, il y a eu un enseignant qui a eu à jeter un livre sur un élève compte tenu de son impolitesse. Dès que cela nous est arrivé, je me suis rendu sur place et moi-même, j'ai suivi la manière dont l'enfant était en train de répondre à l'enseignant et même à s'en prendre à moi-même comme directeur de discipline. Et j'ai eu d'abord à sanctionner l'enfant en lui demandant de rester à la maison convenablement comme le règlement nous demande. Je l'ai d'abord congédié pour 3 jours afin qu'elle s'apaise d'abord. Et à la fin, ils sont venus avec son père. J'ai présenté le cas auprès de son père que l'enfant, qu'il ait raison ou pas, n'a pas le droit d'osser la parole devant l'enseignant. Heureusement que j'étais aussi dans la salle et j'ai vu que l'enseignant a tout simplement franqué les livres qu'il avait en main à l'enfant. Mais sinon, ce n'était pas un cas grave. Mais j'ai demandé aux parents de continuer aussi à tirer les oreilles de ces enfants. Donc on en a tant d'autres, surtout avec notre génération actuelle. Les enfants n'arrivent pas à maîtriser leur langage vis-à-vis des adultes. Nous avons beaucoup de difficultés à ce niveau-là parce que un adulte aussi ne peut pas accepter d'être humilié par un petit enfant dans une salle de classe ou à l'extérieur. Vous savez que ces choses-là ne peuvent pas amener un bon climat entre l'enseignant et les enfants lorsque ces derniers ne sont pas en mesure de se contenir d'abord en tant qu'enfant. Et d'ailleurs, je peux même vous rassurer que au début de chaque année, j'ai souvent tenu un langage dur aux enfants pour leur dire attention, je vous demande d'être d'abord discipliné, de suivre ce que l'enseignant veut dans le cadre de l'humilité, acceptez d'abord, faites d'abord la punition et dès que vous aurez fait la punition, vous pouvez voir l'enseignant même en aparté pour lui dire, ah prof, c'est vrai que vous m'avez puni pour tel élément, mais en réalité, je n'étais pas l'auteur de ces faits-là. Et vous verrez qu'en ce moment-là, l'adulte peut même s'excuser devant l'enfant, mais pas en public. C'est ce que j'ai souvent tenu comme langage. Chez nous en Afrique, Mukolo Akweyakate, il glisse, même si vous l'avez vu réellement les pantalons salis. Mais lorsque vous voulez rapporter cet effet ou cet événement, j'ai souvent demandé aux élèves de se comporter de la sorte en exécutant d'abord la punition et vous verrez que tout cela va se régler sans problème.
Alors comment l'école intègre-t-elle l'éducation aux droits et devoirs des enfants dans son projet pédagogique, vous en tant que proviseur?
Non, nous savons que le droit de l'enfant, d'ailleurs il y a tout un enseignement qui est prévu dans les différentes branches dispensées par des enseignants dans leur salle de classe, parce que les droits et les devoirs de l'enfant, ils sont censés connaître, ça y a le cours d'éducation civique et morale dont ils sont censés avoir presque à chaque niveau. Ce cours-là existe et c'est donné, mais nous aussi au niveau du provisorat, au niveau des encadreurs des élèves, nous avons souvent tenu les langages d'éducation civique et morale lors de nos rassemblements. Lorsqu'il y a rassemblement, chaque lundi, on est censé incorporer quelques discours de savoir vivre en société, même avec les amis, même avec les adultes. Et d'ailleurs, même dans notre règlement d'ordre intérieur, il y a aussi quelques devoirs qu'on a insérés dans le règlement intérieur que l'enfant dispose, parce qu'on met à la disposition de chaque enfant au début de l'année. Mais le problème que nous avons avec notre génération, ils sont plus dans le téléphone que de lire ce qu'on met à leur disposition. Et d'ailleurs, des fois, après 2 mois, si vous leur posez la question « Où se trouve ton vade-mecum ?», il va vous dire « C'est resté à la maison » ou « C'est perdu ». C'est parce que ils n'ont même plus le soif de la lecture, alors que on a mis à leur disposition un document qui reprend le règlement. Et dans ce règlement, il y a aussi les devoirs de l'enfant vis-à-vis de ce qu'il est censé être et faire à l'école.
On n'a pas prévu les droits de l'enfant dans ces documents?
Le droit de l'enfant, nous le connaissons presque du fait que nous, en tant que gestionnaire, nous savons que l'enfant a le droit. Il est libre d'abord lorsqu'il est à l'école. Il a le droit de s'exprimer quand il y a un problème comme il le veut, mais en respectant les autorités ou en respectant la ligne de l'école. Mais pour le droit de l'enfant, dans nos règlements, c'est vrai qu'on n'a pas souvent l'habitude d'intégrer parce que nos règlements sont élaborés dans le cadre de conseils et sanctions. Parce que si vous mettez trop de droits de l'enfant à l'intérieur, nous savons que l'enfant risquerait aussi de se sentir être au-dessus de ce qui les gère. Mais nous, qui gérons les enfants, nous connaissons nos limites vis-à-vis de ce que les enfants ont comme droit dans la société et à l'école.
Quelles sont les actions concrètes mises en place pour sensibiliser les élèves à leurs droits et devoirs?
Jusque-là, les actions concrètes pour le droit et les devoirs, je sais qu'au niveau de l'EPST, ils en ont déjà songé. C'est comme ça que c'est prévu tout un enseignement dans ces cadres-là. Et souvent, au niveau de l'école, nous les exploitons lorsque nous sommes en face d'un fait, c'est-à-dire nous avons une infraction, l'enfant commet une infraction, soit envers un adulte ou entre eux, et en ce moment-là, nous avons souvent l'habitude d'évoquer et vous n'avez pas le droit d'interdire à votre ami de poser une question par exemple, parce que il y a des élèves qui provoquent leurs amis parce qu'ils ont l'habitude de poser des questions, ils commencent à se moquer de lui, et en ce moment-là, dès que ça dégénère et qu'ils arrivent au bureau, nous avons l'habitude de dire qu'il est dans ses droits aussi de poser des questions, et nous leur montrons comment on doit vivre avec les amis. Si toi tu as la compréhension facile et que lui n'a pas bien compris, il a le droit de poser la question afin qu'il ait les connaissances nécessaires pour se défendre, soit lors d'une interrogation et même dans la vie de tous les jours. Donc souvent, nous avons l'habitude de les exploiter au cas où il y a un fait qui nous amène à exploiter le droit de l'enfant.
Comment l'école implique-t-elle les parents dans cette démarche éducative?
Pour le parent, souvent nous avons l'habitude de le dire que actuellement le parent ne nous accompagne pas. Donc la plupart des parents que vous recevez à l'école lorsqu'il y a un problème, vous l'invitez à l'école. Actuellement, nous voyons comme si les enfants n'ont plus de parents. Parce que soit on vous envoie la grande sœur, soit on vous envoie le grand frère, mais papa est où? Donc, les parents sont presque pris dans le qui cherche de tous les temps, on ne sait plus. Et lorsque vous donnez des conseils aux enfants pour qu'ils amènent des fois à la maison, et quand il y a un renvoi, vous verrez que le parent se présente pour dire, d'ailleurs, le comportement que l'enfant affichait chez moi, donc, il n'a jamais fait ça. Vous sentez que c'est comme si les parents sont loin de l'éducation actuellement. Et souvent, on les invite dans les réunions de parents, mais vous avez peu de parents qui répondent, alors que des fois, on a l'habitude de mettre ça le week-end. Vous avez peu de parents qui répondent. Dans une école de 2000 élèves, mais vous vous retrouvez parfois avec 150, 200 parents qui répondent à l'invitation. Or, nous avons l'habitude de communiquer les faits que nous constatons à l'école auprès des parents afin que eux aussi à la maison jouent le même rôle. Mais c'est comme si le poids nous est revenu à 100%. Nous, à l'école, mais gérer 2000, 1500 élèves avec différents comportements, tant que c'est souvent difficile et nous sortons de l'école parfois avec des maux de tête du fait que ces enfants sont devenus difficiles à maîtriser. Mais sinon, les parents, nous les intégrons lorsqu'ils viennent chercher à connaître comment évolue l'enfant. Mais des fois, c'est rare. Je peux même dire que c'est 1% des parents qui viennent chercher à connaître le comportement de l'enfant à l'école et qu'est-ce qui ne va pas avec mon enfant. Donc, pour les autres, vous les verrez seulement quand vous prenez une décision extrême. C'est en ce moment-là qu'il vient pour s'excuser ou bien demander pardon, ou même vous intimider, alors que ils sont censés passer de temps en temps à l'école, voir le comportement de l'enfant et avoir un peu de renseignements sur la manière dont l'enfant se comporte face à ses droits et même à ses devoirs vis-à-vis de la société.
Quels sont les défis rencontrés dans la mise en œuvre de l'éducation aux droits et devoirs des enfants, monsieur le proviseur?
Il y en a beaucoup. Ce qui est vrai que actuellement, nous voyons comme si les enfants ne viennent plus chercher les connaissances et les savoir-faire et même les savoir-vivre, mais ils viennent pour les diplômes. Ce qui veut dire que ils sont censés faire ce qui leur semble bon, parce que pour eux, si vous me faites partir aujourd'hui de votre école, j'aurai encore une école qui m'attende, parce que ici je paye mon argent. Souvent c'est le langage que nous apprenons auprès des enfants. Donc nous avons beaucoup de difficultés pour mettre en place ces systèmes, du fait que les enfants eux-mêmes n'ont plus le goût de l'école.
Comment l'école gère-t-elle les situations où les droits des enfants ne sont pas respectés, où leurs devoirs ne sont pas remplis?
Alors, lorsque le droit de l'enfant ne sont pas respectés, ce qui veut dire qu'il y a un adulte qui bafoue le droit de l'enfant, nous aussi, nous avons le droit de faire le rapport à qui de droit, c'est-à-dire auprès de nos autorités. Mais souvent, ce qu'on a l'habitude de faire, on ne peut pas confronter un adulte à un enfant. On les traite de manière séparée. C'est-à-dire, nous appelons d'abord l'enfant, nous l'écoutons, nous lui disons ce qu'il devrait faire, et après, on va aussi appeler l'enseignant pour lui dire, voilà comment tu t'es comporté face à tel enfant, ce n'est pas bon, voilà comment tu devrais te comporter. Et de manière séparée, on prodigue aussi de conseils. Mais lorsque nous sentons que les faits étaient trop graves, là aussi, nous faisons le rapport auprès de nos autorités pour des sanctions, parce qu'il y a des sanctions qui sont prévues pour le personnel.
Monsieur Kinavoui Diassante, je rappelle que vous êtes proviseur et directeur des disciplines à l'école d'application de l'Université Pédagogique Nationale. Nous vous remercions pour avoir répondu à toutes nos questions.
Je vous remercie aussi. Je suis ravi de vous avoir comme journaliste pour essayer un peu de parler de ce que est la société avec nos enfants. Merci beaucoup.
Les droits et les devoirs des enfants sont au cœur de ce magazine. Pour que le droit et les devoirs des enfants prennent tout leur sens, ils doivent être en pratique au quotidien. C'est le message de Monsieur Patrick Mwamba, membre de l'ONG Edovero, qui œuvre dans l'éducation des enfants et la défense de leurs droits. Selon lui, les enfants doivent développer un goût prononcé pour la lecture et s'enrichir intellectuellement en suivant des émissions éducatives de qualité comme Bano Kapi. C'est ainsi qu'ils deviendront des citoyens utiles, capables d'apporter des solutions à la société, estime Patrick Mwamba. Il a accordé une interview à Stanislas Diomi.
Bonjour, monsieur Patrick Mwamba.
Bonjour, monsieur Tani.
Vous êtes membre de l'ONG Edovero qui s'occupe des enfants, de leur développement et surtout de leur éducation en matière de droits. Alors, Bana Okapi traite les sujets sur les droits et devoirs des enfants. Par quels canaux les enfants en prennent connaissance? D'abord, qu'est-ce que nous pouvons comprendre du concept droit?
Oui, merci beaucoup pour la parole, monsieur Stani. En fait, les droits, c'est l'ensemble des règles de vie qui, dans la société, permettent de vivre ensemble afin d'assurer la justice et la sécurité. Et nous constatons que les droits sont présents dans la vie de tous les jours. Ils permettent d'organiser la vie en société pour tous les individus.
Et quels sont les droits fondamentaux d'un enfant?
Il y en a plusieurs. Le premier, c'est le droit à la santé. Le deuxième, c'est le droit à l'identité. Le troisième, c'est le droit à la protection. Le quatrième, le droit à l'éducation. Et le dernier, c'est le droit à l'expression.
Et vous pouvez nous expliquer de manière succincte le droit à l'éducation, c'est quoi? Le droit à la santé, c'est quoi? Le droit à l'identité, c'est quoi? Le droit à l'expression, c'est quoi? Pour que les enfants qui vous suivent sur les antennes des radios Okapi puissent comprendre qu'est-ce que c'est.
Merci beaucoup, M. Stani. Je commence d'abord avec le droit à l'éducation. Le droit à l'éducation, c'est un droit que tout enfant a besoin, puisque tout enfant est appelé à apprendre. Alors, voilà pourquoi on a dit tout enfant est obligé d'aller à l'école pour apprendre, pas seulement apprendre la connaissance, mais aussi apprendre un métier qui va lui aider dans la vie. Et deuxièmement, il y a le droit à l'expression. Tous les enfants du monde ont le droit de s'exprimer librement, de donner leur avis et d'être aussi écoutés. Le troisièmement, il y a le droit à la protection. Tous les enfants du monde ont le droit d'être protégés contre l'exploitation, la maltraitance, la guerre. Quatrièmement, il y a le droit à l'identité. Tous les enfants du monde ont droit à un nom, à une nationalité, à une famille pour pouvoir être protégés, être vaccinés, aller à l'école. Parce que imaginez-vous si un enfant n'a pas une identité, comment va-t-on l'appeler? Parce que ce sont les parents qui ont ce pouvoir de donner un nom à l'enfant. Et si dès la naissance, les parents n'ont pas pu donner une identité, un nom à l'enfant, c'est très compliqué pour un enfant d'évoluer au sein de la société. Et le dernier, c'est le droit à la santé. Chaque enfant a droit à la santé pour être protégé contre la malnutrition, la maladie, les épidémies.
Vous venez de parler de droits fondamentaux des enfants. J'aimerais que vous nous expliquiez comment le devoir des enfants évolue-t-il en fonction de leur âge? Les enfants aussi ont des devoirs, n'est-ce pas?
Oui, bien sûr que oui, puisque chaque enfant est appelé premièrement d'être là pour aider les parents aux besoins, c'est-à-dire premièrement être là pour ses parents. C'est-à-dire les parents peuvent avoir besoin de faire quelque chose, mais ils sont occupés pour subvenir aux besoins des enfants. Et les enfants peuvent maintenant aller aider les parents pour que les parents se sentent aussi allégés. Des, par exemple, faire la lessive, faire la vaisselle, aller acheter quelque chose tout près de la parcelle, mais peut-être être accompagné d'une grande personne. Parce que plus il ira avec de grandes personnes, à la longue, l'enfant peut commencer à le faire lui-même. Mais les enfants ont le devoir aussi vers les parents, c'est-à-dire d'être là pour aider toujours leurs parents. Pour des petits, c'est-à-dire être là pour les aider pendant qu'ils sont encore sous les toits du parent. Mais pour les grandes personnes, c'est aussi d'aider les parents lorsqu'ils vont atteindre un âge avancé. C'est un peu ça, Monsieur Stani.
Et quels sont les défis actuels en matière de protection de l'enfant, hein? Comme votre ONG encadre aussi les enfants et vous avez parlé de la protection de l'enfant comme un droit fondamental. Et quels sont les défis actuels, surtout en ces moments de guerre et d'insécurité dans notre pays, surtout à la partie est de notre pays?
C'est ce qui vraiment dérange beaucoup, puisque nous voyons, c'est comme si nos autorités regardent toujours leurs intérêts, alors que les enfants ont besoin de la paix, de la sérénité pour aller à l'école. S'il n'y a pas la paix, il n'y a pas moins que les enfants puissent fréquenter l'école et puis étudier dans la sérénité. Et nous lançons un appel vraiment aux autorités qui nous écoutent de bien vouloir penser aussi aux enfants. Oui, peu importe qu'ils soient, peu importe ce qu'ils font, peu importe leurs intérêts, ils doivent mettre en premier les intérêts des enfants. Parce que les enfants ont besoin de la sérénité, ils ont besoin de la paix pour bien étudier. Et les études passent en premier pour aider les enfants à se définir dans la vie. Puisque chaque enfant a au moins une vision. Après 10 ans, après 15 ans, je pourrais devenir un médecin, je pourrais devenir un astronaute, que sais-je encore. Mais s'il n'y a pas la paix, il n'y a pas moyen que les enfants puissent aller à l'école, apprendre et devenir...
Comme vous êtes encadreur, comment les parents et les éducateurs peuvent-ils encourager les enfants à exercer leurs droits et à remplir leurs devoirs?
Premièrement, je me dis, il faut déjà, par exemple, avec l'émission Banokapi, c'est déjà une belle émission pour encourager les enfants. La première des choses, je me dis, il faut que les enfants aient le goût de lire, c'est-à-dire nous, éducateurs et parents, c'est-à-dire pousser les enfants à lire. C'est-à-dire la lecture aide une personne à acquérir plus de connaissances et à devenir vraiment meilleure dans son domaine. Et nous, en tant qu'éducateurs, nous devons au moins réveiller cette passion auprès des enfants de lire. Et deuxièmement, leur orienter aussi à suivre des belles émissions comme Banokapi. Parce que ça aide les enfants à aller plus loin et à devenir aussi de personnes importantes dans la vie, pas seulement pour notre pays, mais partout dans le monde. C'est un peu ça. Nous, en tant qu'éducateurs, parents, nous devons être là derrière nos enfants, les orienter, les accompagner, les coacher, leur donner le goût de la lecture et de suivre aussi des belles émissions.
Et vous, au sein de l'ONG Edovero, qu'est-ce que vous faites pour encourager les enfants à exercer leurs droits et à remplir leurs devoirs?
La première des choses, nous créons d'abord des ateliers, nous créons des camps pour échanger d'abord avec les enfants, leur apprendre d'abord c'est les droits, comment les appliquer dans la vie quotidienne, comment être utile dans la société, c'est-à-dire nous sommes là toujours derrière les enfants pour les apprendre à faire des choses utiles. Comme il y a même un slogan de notre ONG qui dit « Je suis une réponse ». Et « Je suis une réponse », c'est pas seulement pour des grandes personnes, même déjà pour les petits enfants qui ont déjà 3 ans, 4 ans, 5 ans. Nous leur apprenons à être déjà des réponses où qu'ils soient, quoi qu'ils fassent, ils doivent être une réponse, c'est-à-dire chercher à vivre dans la propreté, chercher à être une réponse à un problème auprès d'une personne dans son église, dans son école, dans sa famille. Nous leur apprenons vraiment ces connaissances pour qu'ils puissent les connaître et les appliquer afin d'être une réponse.
Et que faire si un enfant se sent lésé dans ses droits ou s'il rencontre des difficultés à remplir ses devoirs?
Voilà pourquoi nous avons même épinglé le droit à l'expression. Voilà pourquoi nous aussi, éducateurs, parents, nous sommes là. C'est-à-dire, les droits, les enfants doivent savoir qu'ils ont droit aussi à l'expression. Tous les enfants du monde ont le droit de s'exprimer librement, de donner leur avis et d'être écoutés. C'est-à-dire, nous devons toujours être là auprès des enfants. Si les enfants se sentent lésés, c'est-à-dire, les enfants peuvent venir vers nous, mais si nous voyons que les enfants ne viennent pas vers nous, juste avec ces constantes, nous pouvons aller auprès des enfants, échanger avec eux pour savoir qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'il y a, et être une réponse auprès de ces enfants pour qu'ils puissent vraiment grandir avec un bon état, ou soit avec un esprit ouvert.
Avez-vous un dernier mot à ce qui concerne notre sujet du jour?
J'allais juste lancer un appel par rapport à notre ONG Edovero.
Allez-y.
Edovero n'a pas seulement les produits éducadroits. Nous avons plusieurs produits. Il y a les produits éducadroits dont on vient d'exploiter maintenant. On a les produits Épelle-moi en français, Épelle-moi en anglais, les sciences du climat. Et présentement, nous sommes membres d'une fédération africaine et nous sommes sélectionnés pour aller représenter la RDC au Nigeria au mois d'avril, du 9 au 13 avril. Alors nous lançons un appel vraiment au gouvernement, la première ministre, chef du gouvernement. Nous faisons appel à qui? Au ministre d'État de l'Éducation nationale. Nous avons vraiment besoin de leur accompagnement, puisque ça, ce n'est plus question d'une ONG ou soit d'une école, puisque nous avons déjà tout fini, on a tout travaillé et nous avons déjà les enfants qui doivent aller représenter la RDC au Nigeria. Et nous avons vraiment besoin d'être accompagnés.
Voilà. Je pense que votre message est très bien capté. Monsieur Patrick Mwamba, je rappelle que vous êtes membre de l'ONG Edovero qui s'occupe des enfants sur des questions liées aux droits, à l'épilation de mots en français et en anglais. Nous vous disons merci d'avoir répondu à toutes nos questions.
Merci beaucoup, Monsieur Sanglas. Merci à vous.
Les amis de Bana Okapi, votre magazine se poursuit. Comment le droit congolais assure-t-il la protection des droits de nos enfants en matière d'éducation, de santé et de protection contre la violence et l'exploitation? Quels sont les principaux obstacles à la mise en œuvre de ces droits compte tenu des réalités socio-économiques et culturelles de notre pays? Et n'oublions pas, les enfants ont aussi des devoirs. Que prévoit la loi en cas de manquement à ces devoirs? Pour répondre à ces questions et à bien d'autres, j'ai le plaisir d'accueillir dans ce studio Maître Jeff Opela, notre expert maison en matière de droit. Maître Jeff, bonjour.
Bonjour Sarah Soumbela et merci de nous accueillir.
Maître Jeff, alors dites-nous, comment le droit congolais protège-t-il les droits des enfants, notamment en matière d'éducation, de santé et des protections contre la violence et l'exploitation?
D'abord, j'aimerais dire que ce sujet, qui est un sujet très pertinent, qui me tient particulièrement à cœur, car le droit de l'enfant sont fondamentaux pour l'avenir de notre société, Sarah Sundela. Et par rapport à la question que vous venez de me poser, il faut d'abord savoir la pertinence de ce que tu es en train de dire. Mm-hmm. Parce que il est impérieux de rappeler que l'enfant constitue une richesse d'abord pour la communauté, une richesse pour la famille, pour le clan. Et pour la société également. Donc, pour la constitution du 18 février 2006, telle que modifiée et complétée en ces jours, c'est d'abord la loi fondamentale qui garantit les droits des enfants. Et pour parler de la constitution, il faut remonter vers 89 pour voir ce que les niveaux internationaux prévoient plutôt par rapport à la protection des droits des enfants. Là, nous faisons directement allusion à la convention relative aux droits de l'enfant. Mm-hmm. Donc là, déjà, c'est un instrument juridique international très important qui a donné lieu aujourd'hui à la loi portant protection de l'enfant. Nous parlons de la loi numéro 009 du 10 janvier 2009. C'est très, très important, Sarah Sundela. La protection de l'enfant ne passe pas par autre chose que la loi. La famille, aujourd'hui, on parlera des droits que les parents ont par rapport à leurs enfants. Tout parent qui met un enfant au monde commence d'abord par l'aimer et voudra à tout prix que cet enfant soit élevé dans le confort et dans les bonnes conditions, voilà. Cela doit être renforcé. Et puis par des mesures coercitives, avec tous ceux qui sont aux alentours, tout le monde ne voudra pas que votre enfant grandisse comme tu le veux. Et il y aura des hicks, il y aura des problèmes ça et là. Et voilà pourquoi la Constitution du 18 février 2006, en son article 123.16, donne note que la République démocratique du Congo, dont la population accorde une place centrale à la population en tant que renouvellement de l'être qui est l'enfant et de la vie, c'est résolument engagé dans la voie de faire de la protection de l'enfant son cheval de bataille.
Maître Jeff, comment le système judiciaire congolais prend-il en charge le cas de violation des droits des enfants?
Le système congolais prend en charge le cas de violation des droits des enfants. C'est tout à fait par rapport à la loi. Les droits des enfants, on les sait. L'article 13 jusqu'à l'article 37, vous allez voir les droits des enfants. De l'article 37 à l'article 44, vous verrez les devoirs des enfants. Alors, la protection de ses droits, c'est au niveau de la loi. Et celui qui se sent protégé, c'est celui qui connaît que la loi le protège. Et si on sent que tu n'es pas protégé, parce que vous avez parlé de l'éducation d'abord, s'il faut me permettre de revenir un peu, par rapport à l'article 21, là, la loi protège déjà l'enfant par rapport à l'éducation. Mmh. Tout enfant a droit à l'éducation. Les parents ont l'obligation d'envoyer leurs enfants à l'école sans aucune discrimination. Femmes, filles, garçons doivent aller à l'école, c'est leur droit. Et les parents doivent les respecter. L'État garantit le droit de l'enfant, le droit à l'éducation plutôt, en rendant obligatoire, comme l'a fait l'autre fois le président de la République, qui a ordonné à ce que les institutions scolaires puissent recevoir les enfants à l'école parce qu'on veut garantir ses droits à l'éducation. Donc, il y a aussi le droit à la santé. Et le droit à la santé, c'est également par rapport à ce que la loi dit. L'enfant doit vivre dans un environnement propice qui permet à sa santé d'évoluer d'une manière propre, lui permettant l'épanouissement intégral de sa personnalité. Donc ça, c'est déjà très important, ce que la loi prévoit par rapport au droit. L'assistance sociale aussi à l'éducation, il y en a. Et puis l'enfant doit être placé dans une institution qui lui permet. Aujourd'hui, il y a des écoles qui manquent même des bancs. Il y a des écoles qui manquent
des espaces récréatifs. Tout.
Ça, c'est un problème. Donc, où tout ça va dans le sens de droit que la loi reconnaît à tout enfant. On doit lui mettre dans une institution qui lui permet d'être bien éduqué.
Mais Maître Jeff, quand les conditions ne sont pas réunies, où on retrouve dans une famille les enfants, non, il y a violation de droits des enfants carrément dans une famille, qu'est-ce qui arrive?
Dans une famille, lorsqu'il y a violation, d'abord, le premier arbitre, c'est le parent. Et les parents savent que ce que tu fais là, c'est pas bon pour l'autre. Donc les parents doivent intervenir avant.
Et les parents doivent jouer leur rôle des parents pour pouvoir réconcilier les enfants qui ne s'attendent pas. Ça, c'est un.
Justement, maître, si c'est les parents qui sont auteurs de violations de droits de leurs enfants, dans ce cas-là, qu'est-ce que la loi dit exactement?
Si les parents sont responsables ou auteurs des infractions ou du préjudice causé aux enfants, c'est l'environnement. Ce sont les voisins. C'est parce que les parents, aucun parent n'ira à la justice pour dire que moi-même j'ai brisé ou bien j'ai préjudicié le droit que la loi reconnaît à mon enfant. Non, aucun parent ne le fera. D'où ceux qui sont aux alentours, ceux qui s'appellent adultes, qui connaissent que l'acte qui est posé sur cet enfant est répréhensible. C'est celui-là qui a l'obligation d'aller informer la loi ou le magistrat pour pouvoir se saisir de ce dossier et remettre l'enfant dans ses droits et rétablir les droits qui ont été préjudiciés.
Maître Jeff, existe-t-il de droits spécifiques pour les enfants en situation de vulnérabilité, enfants de la rue, enfants orphelins, enfants handicapés ou encore les enfants défavorisés?
Il n'existe pas de loi spécifique. Pourquoi? Parce que tout enfant, les droits qui sont reconnus dans la loi portant protection de l'enfant de 2009, reconnaît le droit à tout enfant, que tu sois handicapé, que tu sois maladif, je ne sais pas, que tu sois un enfant de la rue. Tout enfant a droit. Tout le monde est égal devant la loi. La loi ne fait pas la différence de l'enfant, tout ça. Mais il y a quand même, il faut noter qu'il y a quand même une mesure particulière, c'est-à-dire par rapport à ces enfants-là. Mmh. On ne peut pas traiter un enfant qui est dans la rue, par exemple. Il n'a personne pour le surveiller. Il rentre sous la charge de l'État congolais. Et si l'État congolais ne prend pas en charge cet enfant, l'enfant connaît beaucoup de bévues. Et il connaît aussi beaucoup des préjudices par rapport à son enfance. Il manque le droit à l'éducation, il manque le droit à la nourriture, il n'a pas un meilleur endroit pour son épanouissement intégral. Il y a beaucoup de choses qui se font dans la rue que l'enfant ne peut pas se sentir protégé. Et ça, c'est important de prendre des mesures particulières par rapport à ces enfants-là. Voilà pourquoi il y a quand même des établissements d'éducation, les établissements de garde d'éducation de l'État, qui ne sont pas d'ailleurs nommés. Ici, il y a des institutions, également des ONG qui prennent les enfants qui sont dans la rue et commencent à les éduquer ou à prendre soin d'eux. Donc, il y a toujours des mesures qui sont particulières dans ces sens-là. Mais par rapport aux bénéfices accordés à tout enfant, alors tout enfant, que tu sois dans la rue, que tu sois né hors mariage ou dans les mariages, tu bénéficies des mêmes droits reconnus dans la loi pour tout enfant.
Parlons un peu des dénonciations. Est-ce qu'un enfant mineur peut-il aller dénoncer parce qu'il y a eu violation de ses droits?
Vous savez, Sarah Soumela, il y a le droit de l'expression. Le droit de l'expression donne au moins l'accès à cet enfant-là de voir qui il veut. Et s'il a la maturité, il peut reconnaître, il peut aller lui-même dire, par exemple, je connais mon voisin, mon papa, c'est le papa de mon ami, là, il est avocat, je vais quand même dire à mon papa, ou soit je vais dire à mon yaya, qui est mon confident, par rapport à ce que j'ai subi à la maison, pour qu'ils interviennent. Il ne peut pas lui-même aller dénoncer, peut-être par rapport à la distance, de là où se situe l'officier du ministère public qui prend en charge son dossier. Mais il peut dire à l'adulte qui est à côté de lui. Et c'est à cet adulte-là qui a l'obligation, je dis bien l'obligation, d'aller dénoncer. Il ne peut pas dire que je ne vais pas dénoncer. Au cas où il s'avérait que l'adulte connaissait déjà ces cas-là avant et qu'il n'a pas voulu dénoncer, il rentre sous le coup de la loi. Et il a droit, il est susceptible ou passible des sanctions que prévoit la loi portant protection de l'enfant. Donc on a l'obligation, tout adulte a l'obligation de dénoncer tout ce que l'enfant subit.
Lorsque l'adulte, le voisin, supposons qu'il part dénoncer au niveau du tribunal pour enfants, qu'il y a abus sur un enfant dans le quartier par exemple, qu'est-ce qui arrive généralement?
Lorsque l'adulte part accusé, est-ce que l'adulte est dans la famille ou en dehors de la famille?
Je parle d'un voisin qui constate qu'il y a violation de droit d'un enfant et qu'il va dénoncer dans un tribunal. Qu'est-ce qui arrive?
Dans chaque tribunal pour enfants, il y a un assistant social. Et je crois que le juge se sentira obligé d'envoyer l'assistant social au niveau de la famille pour constater les faits. Et si on voit que
les faits est répréhensible, on va interpeller, on va inviter les parents pour pouvoir répondre à leur préjudice causé. Donc il y a toujours une procédure. Et l'assistance sociale va amener le dossier et le juge va statuer sur les dossiers et après on verra comment rétablir les droits de l'enfant.
Maître Jeff, nous avons beaucoup parlé des droits. Parlons maintenant des devoirs. Que prévoit la loi en cas de manquement à leurs devoirs? Les enfants, bien sûr.
D'abord, par rapport aux devoirs, il y a la comment dire, par rapport aux devoirs, il faut dire que les enfants n'ont pas que le droit, ils ont aussi des devoirs. Et les devoirs vis-à-vis de parents, vis-à-vis de la famille, de la société, aussi de la communauté. Mmh. Alors, il est important, parce qu'on parle des devoirs, des fois les enfants se disent, de quel devoir parle-t-il?
Yeah.
Là, il faut faire directement allusion à l'obéissance aux parents. Et les enfants doivent obéir aux parents, ils doivent respecter ses supérieurs, les personnes âgées, et celles qui sont âgées en toutes circonstances, hein, et assistées en cas de besoin. Et puis, ils ont le devoir d'aller à l'école, respecter le droit, la réputation, l'honneur d'autrui, la loi, et puis les règlements de l'école ou du pays. Ils doivent aussi également, ça va se mettre là, permettez-moi, respecter le droit, la réputation, l'honneur, respecter l'identité, la langue, la valeur, et puis je peux encore dire respecter l'environnement, les biens, les lieux publics, et puis quoi encore, promouvoir la qualité de la vie de tous, œuvrer pour la cohésion de la famille, pour le bien-être de la communauté, de la nation. Il y en a plein des devoirs qu'ils doivent faire, au cas où ils venaient à manquer à ces devoirs.
Mm-hmm.
Voilà pourquoi la loi a prévu d'abord, premièrement, la charge de parents par rapport à cette éducation-là. Premièrement, il faut dire que les parents ont l'obligation de traiter ces cas-là sans problème. Mais au cas où il s'avère que le manquement passe au niveau des faits bénins pour arriver au niveau du manquement à la loi pénale, et là, c'est là où ça tourne, c'est là où ça change. Et la loi prévoit ceci. Si les faits sont graves,
mmh,
et que les milliers infligent sur l'enfant, d'abord on va déplacer l'enfant de la maison.
Okay.
On déplace l'enfant de la maison pour un milieu où il est confié à, comme je l'ai dit, à l'établissement des gardes de l'État. Et puis, mais si les faits qualifiés d'infraction de la loi aussi est établi contre l'enfant, l'article 113 de la loi stipule que 8 jours après la sentence prononcée par les juges, réprimander l'enfant. Et puis, après cette réprimande, il remet l'enfant sous la charge de ses parents. Si on trouve que le fait, parce que le problème, c'est l'intérêt supérieur de l'enfant. Le problème, c'est d'abord que la loi soit garantie, et le droit plutôt soit garanti, et que cet enfant venait à manquer à ses devoirs, le problème, c'est pas de tuer l'enfant. C'est combattre les faits fautifs qu'on trouve dans le chef de l'enfant.
Mm.
Mais une fois les faits fautifs est combattu et comment dire, remédier, automatiquement, on remet l'enfant à la charge des parents.
Merci beaucoup, Maître Jeff. Nous courons derrière les temps, on nous fait déjà signe. Pour vous résumer, le cadre juridique existe, mais de nombreux défis persistent. Il est donc essentiel que chacun, parent, éducateur, autorité, s'engage à faire respecter les droits et les devoirs des enfants. Merci à Maître Jeff Opeila pour votre participation.
Merci beaucoup, Sarah Soumbela, pour cette opportunité de partager mon expertise. Je suis convaincu que la sensibilisation et l'éducation sont essentielles pour faire progresser la cause de droits et devoirs de l'enfant dans notre pays.
Merci beaucoup, Maître Jeff. C'en est fini pour ce numéro du magazine Bano Okapi consacré aux droits et devoirs des enfants. Ce magazine vous a présenté les canaux pour apprendre vos droits et devoirs, mais également comment les revendiquer ou le mettre en action. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de Radio Okapi, www.radiookapi.net, ou sur la page Facebook Bano Okapi. Nous disons merci à toute l'équipe qui a rendu cette émission possible. Sulamit Kipuni, Jeff Opela, Ezekiel Mouzali, Aguilene Kassassia, Grace Fezolo, Rachel Kessimbangu, André Kitenge et Stanislas Diomi. Merci également à Christian Mapendano et à Chris pour la coordination, à Jean-Marc Matouaki Mofelele Dijano pour la supervision. Et nous disons un grand merci à Polydor Basunga qui était du côté de la technique. Je suis Sarah Soumbela à la présentation de ce magazine. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles émissions. Prenez soin de vous.